Podcastobuzz.com. Rencontre par Marc Zisman.
Bonjour Alexandre Tarot.
Bonjour.
Alors on vous retrouve quelques mois après le dernier entretien avec Cobuzz. On est à peine sorti de votre satique. On arrive cette fois-ci chez Chopin pour qu'il vous consacre un nouvel album. Je pense que c'est le troisième déjà à Chopin. Un nouvel album, une nouvelle maison de disques aussi, Virgin Classics. Mais un point commun par exemple avec le dernier album, c'est qu'il y a je sais pas comment on peut appeler ça, un surtitre. À cet album, puisque c'était avant-dernière pensée pour Satie, et là c'est Journal intime. C'est important pour vous, ou c'est juste anecdotique de mettre un titre autre que Tarot, Chopin?
En ce qui concerne le Satie, je n'avais pas imaginé un sous-titre ou un surtitre, comme vous dites. C'est Eva Kutaz, chez Harmonia Mundi, qui a pensé appeler cet album Avant-dernière pensée. C'est assez poétique, mais c'était son idée. Et par contre, pour ce nouvel album consacré à Chopin, là, il était vraiment important pour moi de faire comprendre de quoi il s'agissait. C'est-à-dire que j'ai réuni dans ce programme des pièces qui ont été vraiment importantes dans ma vie. Je m'explique, Chopin, pour moi, c'est le compositeur qui a véritablement marqué les étapes importantes de ma vie, qui m'a accompagné, comme beaucoup de pianistes d'ailleurs, depuis l'enfance, même le plus jeune âge, puisqu'avant même de prendre mes premières leçons de piano, j'ai eu accès à Chopin par les disques que j'écoutais dans la maison, mais aussi par une vieille pianiste dont je parlerai peut-être tout à l'heure. Et voilà, donc j'ai réuni en quelque sorte des souvenirs personnels. Moi, je considère cet album comme un album de souvenirs personnels. Évidemment, je ne vais pas m'épancher, je ne vais pas raconter. Au départ, je ne voulais pas trop en parler puisqu'il s'agissait plutôt d'une idée de concert, un programme de concert. Puis c'est devenu un programme de disques. Mais en l'appelant de cette manière, journal intime, je crois que ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire une promenade dans mon passé.
Parce qu'il y a eu du temps également quant au, j'allais dire, à l'ordre des morceaux, au tracklisting comme on dit, c'est-à-dire il y a eu dans un premier temps donc ce choix lié à votre vie d'une certaine manière, et après il y a l'assemblage, j'allais dire, pour avoir une sorte de voyage. C'est quelque chose qui vous a, sur lequel vous êtes penché longtemps, qui est venu naturellement, comment ça s'est fait, ou après peut-être enregistrement?
Alors quand il s'agit d'un album avec des pièces différentes, on choisit l'ordre des pièces au montage. Parce qu'il y a évidemment des pièces qui sortent mieux que d'autres.
Vous n'avez pas d'idée dès le départ en disant de toute façon je veux commencer de la sorte et terminer de la sorte?
Si, j'ai toujours des idées très précises dès le départ, moi. mais bon, ça change. Il faut savoir changer et puis écouter aussi sa directrice artistique et écouter les autres. Je fais entendre mes premiers montages à des proches, à des gens qui me connaissent bien, parce qu'il faut avoir une oreille extérieure. C'est très difficile le montage quand on est en plein dedans. On n'a pas le recul nécessaire pour faire les bons choix. Et donc, pour cet ordre-là, l'ordre final, c'est... voilà, comment dire, pour qu'un disque fonctionne, il faut qu'il y ait des surprises. Voilà. Il faut qu'il y ait une pièce, je ne sais pas... une pièce longue, une pièce courte. C'est un peu bête de parler comme ça, mais ça doit s'articuler de manière surprenante.
Comme un voyage un peu avec différentes
étapes. Un voyage,
étapes,
des montagnes russes, des tournants, des petites cachettes, des longs tunnels.
C'est votre affection pour le spectacle, autre que j'avais vu classique, qui vous fait peut-être devenir un peu une sorte de metteur en scène de cela ?
Il faut être metteur en scène de son disque, oui, c'est vrai. Voilà, il faut. J'ai toujours. Vous savez, moi, je suis un grand acheteur de disques. J'écoute énormément de musique.
Vous racontiez la dernière fois que vous arriviez à la caisse avec des piles souvent.
Ah bon, c'est la... Oui, c'est vrai. Et je suis souvent ennuyé par les disques qui sortent. Alors, la première plage me plaît, la deuxième aussi. Puis au bout d'un moment, je m'ennuie. Parfois, je m'endors même. Et ça me fait peur. Et je pense toujours à l'auditeur quand j'enregistre. J'enregistre mes disques beaucoup pour les autres. Et non seulement je ne veux pas décevoir, mais aussi je veux, si possible, que l'auditeur se sente bien et qu'il y ait, que ça palpite, que ça bouge, que ça virevolte un peu en lui. Et voilà, pour ça, il faut vraiment faire très attention à l'architecture du programme.
Est-ce que vous avez eu des surprises, bonnes ou mauvaises, en enregistrant certaines de ces pièces, donc qui sont des œuvres parfois qui vous suivent depuis très longtemps, parce que vous parlez de rapports vraiment intimes et liés dans votre éducation musicale et même dans votre vie personnelle. Est-ce qu'il y a des œuvres qui vous ont, des pièces en les jouant, qui vous ont déçu, qui vous ont surpris, que vous avez redécouvert différemment, ou d'autres choses que vous vouliez intégrer dans ce programme et que finalement vous avez rejeté? Comment?
Ce n'est que ça. Ce n'est que ça, l'enregistrement d'un disque, surtout quand il s'agit de pièces qu'on joue depuis très longtemps. Parce qu'un enregistrement, c'est en même temps quelques instants de votre vie. Hein. C'est très court, 4-5 jours. On va dire une cinquantaine d'heures d'enregistrement. C'est une sorte de photo d'instantané à un moment de votre vie.
C'est ce qui reste aussi.
Oui, mais ce qui reste vous appartient à vous, mais pas à moi. C'est plus vraiment moi. Parce que dès le lendemain, je suis déjà quelqu'un d'autre. J'ai déjà envie de jouer autrement ces œuvres. Donc, je pourrais dire que ce ne sont que des mauvaises surprises. Mais par contre, le disque, c'est pour ça que j'en enregistre beaucoup depuis longtemps, c'est ce qui me fait vraiment avancer. C'est-à-dire que, prenons la deuxième ballade de Chopin, voilà, que j'ai jouée depuis mon entrée au conservatoire. Il fallait qu'elle soit absolument dans ce programme parce qu'elle est très importante dans ma vie. C'était le morceau imposé, j'avais 14 ans, j'ai tellement travaillé et ensuite joué, rejoué. C'est une œuvre vraiment que j'aime profondément. Et bien, en l'ayant enregistrée, donc en quelque sorte en étant allé très loin dans l'œuvre, parce que quand vous enregistrez, vous êtes coupé du monde, vous jouez 10, 20, 30 fois les mêmes passages, c'est quelque chose de presque douloureux, mais c'est en même temps un accouchement. Et donc voilà, ça, c'est quelque chose qui sort un peu dans la douleur. Mais ça vous donne une autre direction. Et depuis mon enregistrement, je joue cette ballade différemment, pas d'une manière tout autre, mais j'ai pris quand même une autre direction.
Comment cette musique de Chopin, dans sa globalité, même avec ses différentes facettes, mais dans sa globalité, elle a évolué avec vous? Alors c'est peut-être difficile, je dirais. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle représente? Alors c'est peut-être un peu comme peut-être de demander, quand c'est tellement en soi... Parlez-nous de votre mère ou de votre père, ou je ne sais pas, ou de vous-même, d'une partie de votre corps, mais comment cette musique, elle a évolué, si on prenait les grandes phases de votre vie musicale? Est-ce qu'il y a eu des moments où vous en êtes éloigné, d'autres moments rapprochés? Ou finalement, elle a toujours été en vous? Comment ça, l'évolution de cette œuvre?
Elle a toujours été là, déjà. Ce n'est pas le cas des autres compositeurs. Et au départ, c'était simplement des émotions. Qui venait des disques de Samson François, de Tamás Vasari, deux très très grands pianistes qui m'inspirent toujours maintenant, les disques que mes parents passaient sur le tourne-disque du salon. Et puis ensuite, cette vieille dame dont je vous parlais tout à l'heure, qui était la pianiste des cours de danse de ma mère professeure de danse, et le studio jouxtait notre appartement, donc j'entendais tout le temps ces pièces de Chopin. Alors elle jouait des écossaises au ralenti, parce que c'était une très mauvaise pianiste, des nocturnes, des valses, elle a rajouté un temps aux valses, c'est assez horrible, et je ne sais pas comment les apprentis danseuses faisaient, mais c'était une pianiste que j'aimais énormément et qui me qui m'écrivait après, quand j'ai pu jouer un peu de piano à 5-6 ans, elle me transcrivait des œuvres de Chopin, mais pour un niveau débutant 1, débutant 2. Donc j'ai pu, grâce à elle, avoir accès à un Chopin facile, qui était accessible pour mes petits doigts d'enfant. Et voilà, ensuite Chopin a accompagné les concours de fin d'année. C'est un compositeur qu'on joue beaucoup dans les examens de passage, l'entrée au conservatoire, après à l'adolescence, puis les concours internationaux. Donc c'était très lié aussi, cette musique était liée à la performance, hein, au concours. Donc est-ce que je serai pianiste? Est-ce que j'y arriverai? Est-ce que j'y arriverai pas? Est-ce que c'est ma vie? Et Chopin était toujours au centre de ces questions-là. Et puis ensuite, je l'ai peut-être un peu délaissé, jamais totalement, mais ces pièces ont vécu en moi, souvent à travers d'autres doigts, hein, pas les miens, des disques que j'écoutais énormément, ou des pièces qui sont liées à tel ou tel lieu ou à telle personne, parce que c'est une musique que j'écoutais énormément à ce moment-là, voilà, et que je ne peux pas les jouer aujourd'hui sans me remettre instantanément dans ces moments du passé. Voilà, Chopin, c'est quelqu'un qui m'accompagne depuis longtemps, comme beaucoup de pianistes, mais pas tous. J'ai autour de moi certains pianistes qui ne jouent pas Chopin ou qui ont peur de Chopin ou pour qui Chopin est encore resté très lié au conservatoire, donc à l'apprentissage, et dont il est difficile de se défaire.
Est-ce que c'est justement la relation devient plus intense quand on désapprend, enfin je sais pas, Chopin, parce que justement c'est très lié à cette partie de vous-même qui est partie d'éducation, où malgré tout, même dans cette partie-là, on construit sa touche, sa signature, son style, etc. Est-ce que finalement, le fait de l'avoir, vous avez dit, peut-être délaissé un petit peu après le conservatoire pour y revenir ensuite régulièrement, est-ce qu'il faut désapprendre en fait certains compositeurs d'une certaine manière ou certaines œuvres?
Oui, peut-être plus Chopin que d'autres d'ailleurs. Parce que pour que le discours de Chopin passe, qu'il soit fluide, il faut le jouer de manière quasi improvisée. Comment faire? Et donc c'est un travail de désapprentissage au quotidien. Hein, c'est je crois que Chopin se travaille énormément dans le détail, mais au moment de le jouer, il faut se défaire de tout. Et ça, c'est un sacré travail. C'est pas facile.
Est-ce que pour ces pièces de cet album, Journal Intime, vous avez fait plusieurs prises? Comment ça s'est passé? Tout est venu rapidement? Vous avez été... Là, je parle vraiment de l'enregistrement, purement de l'enregistrement.
Alors, c'est très étrange, hein, un enregistrement. Ça se déroule de manière toujours... surprenant, c'est jamais comme on ne l'imaginait, et il y a des pièces qui sortent d'un coup comme ça dès la première prise. Il y a certaines pièces dans cet album, c'est la première prise et entière, puis ensuite j'ai enregistré 20, je vous le disais tout à l'heure, 20 fois, 30 fois, et j'enregistre beaucoup parce que je suis anxieux en enregistrement, et je suis surtout jamais content de moi, même il n'y a pas une note qui me plaise dès que j'écoute la première prise, ni la deuxième, ni la troisième, donc j'enregistre énormément, ce qui est fatigant d'ailleurs, et voilà, donc c'est, si vous voulez, c'est un mélange. Il y a des pièces qui sont sorties toutes seules et d'autres plus difficilement, et le résultat final n'est pas forcément celui qu'on croyait au moment de jouer. Les pièces qui sont en une seule prise ne sont pas forcément, à mon avis, les plus réussies, mais pour ça il faut encore, comme je vous le disais tout à l'heure, beaucoup de temps. Je n'ai aucun recul avec mes disques, en fait. J'ai beaucoup de mal à les écouter. Mais par contre, alors là, je découvre quelque chose en ce moment, c'est que j'arrive à écouter mes premiers disques. Des disques qui ont maintenant, donc, 10 ans, 12 ans, mes tout premiers disques pour des petites compagnies, des disques qui sont souvent passés inaperçus, mais que j'arrive à écouter aujourd'hui un peu comme un grand frère bienveillant.
Quel jugement vous portez ou quel...
Ben, pas de jugement, justement. Non. J'écoute avec plaisir et je vois ce qui ne va pas, évidemment, mais voilà, je n'ai pas de... Je ne suis pas sévère avec moi. J'ai l'impression que c'est quelqu'un d'autre. Thank you.
Comment se passe la construction, le déroulement d'un nouveau projet comme celui-ci par rapport au précédent? Là, c'était Sati. Vous expliquiez qu'effectivement la difficulté était autre que la technique. Il y avait vraiment un ailleurs, quelque chose à trouver. Là, pour Chopin, c'est différent. Est-ce qu'on construit un album par rapport au précédent ou pas spécialement? Vite, on tourne la page, on est ailleurs. Ou est-ce que finalement ce Chopin-là est quand même le Chopin d'après Satie? Même si évidemment, sur scène, vous avez joué d'autres compositeurs dans la période de sortie d'album.
Je pourrais dire que c'est le résultat de tous mes disques précédents. J'ai toujours pensé qu'il y avait un lien assez fort entre tous mes disques. Évidemment, on ne va pas relier Satie à Chopin, c'est quand même deux mondes très différents, même si c'était deux personnes aussi malheureuses en amour et très seules. Mais par contre, on peut assez facilement relier ce disque. Évidemment, à mes deux premiers disques Chopin, l'intégrale des valses et celle des préludes, puis à mes disques Couperin, Bach et Rameau, qui étaient des compositeurs que Chopin aimait. Et puis, c'est aussi ce disque est aussi le témoin d'une nouvelle période pour moi, puisque j'ai changé de maison de disque, c'est pas rien. Donc, il a été fait avec une nouvelle équipe. Cécile Lenoir qui a enregistré et fait la direction de ce disque, elle n'a pas
Ouais,
changé,
ce que
elle est
j'allais dire,
là, on est
c'est
vraiment fidèles tous les deux depuis des années. Mais toute l'équipe de Virgin est nouvelle pour moi, et c'est d'ailleurs un grand bonheur, c'est une équipe magnifique, et j'ai beaucoup de plaisir à travailler avec eux. Mais ce disque-là s'est enregistré voilà, aussi avec cette énergie nouvelle.
quel impact justement ces éléments-là ont sur quelque chose d'aussi personnel et intense que la relation que vous avez avec Chopin? Vous dites finalement c'est un nouveau projet, c'est une nouvelle équipe, c'est important, etc.
Ça a certainement donné une couleur nouvelle à cet album. Je peux pas dire que ça a changé ma manière de
Ouais.
jouer, hein. Et puis ce disque vient de loin. Comme tous mes disques, j'y pense depuis je sais pas, 4 ans, peut-être 5 ans, plus encore. Mais ce qui était le plus frappant dans cet enregistrement, et ce que je n'ai pas vécu dans les précédents disques, c'est que cette fois, toutes ces œuvres étaient donc liées à des souvenirs personnels, à des souvenirs parfois intimes, et les jouer toutes dans un même programme sur 5 jours d'enregistrement, bien, je dirais que tous ces souvenirs se sont mêlés les uns aux autres, hein, sont revenus à la surface. Donc c'était quelque chose d'assez bouleversant, et je ne sais pas si ça a rejailli sur le résultat final. En tout cas, les 5 jours que j'ai passés dans cette salle de l'IRCAM, là, en sous-sol, donc enfermé, coupé du monde, très coupé du monde, mais entouré de tous ces souvenirs, ces personnes, ces lieux, ces souvenirs d'enfance, d'adolescence, de l'âge adulte, ces souvenirs de concert, tous ces souvenirs liés à Chopin. Mais il y avait vraiment une atmosphère particulière, et voilà, j'étais pas tranquille, quoi. Il y avait quelque chose qui vibrait, beaucoup de choses qui vibraient en moi, et c'était une sensation nouvelle.
Est-ce que c'était important pour vous aussi? Parce que quand on s'était rencontré la dernière fois, donc il y a quelques mois, il n'y a même pas un an, vous évoquiez pour vous le besoin évidemment de la scène permanente, c'était vital pour vous, mais vous évoquiez parfois de penser au fait de pouvoir arrêter d'enregistrer tout simplement.
Alors, j'étais dans une mauvaise période, parce que j'étais.
Mais arriver quand même à penser de se dire, voilà, je veux rien graver dans la cire, je veux arrêter.
Oui, mais encore une fois, voilà, j'étais dans une mauvaise période, j'étais sur le point de partir d'Harmonia Mundi, qui est une maison de disques extraordinaire avec laquelle je m'imaginais passer ma vie. À partir d'une maison de disques, c'est une rupture, hein, c'est quelque chose de fort.
L'histoire d'amour qui s'arrête et
Et
on essaye de.
oui, voilà, bon, bah, c'est comme ça, c'est la vie. Et puis ça fait du bien aussi d'aller de se donner du danger, de bouger, de se forcer à bouger. Partir, c'est bouger aussi en soi. Et repartir sur de nouvelles bases avec encore une fois une nouvelle équipe. Et je crois que c'est pour ça que ce jour-là, je vous avais dit que j'avais envie d'arrêter. Mais le désir est revenu très rapidement.
Alors toujours sur Chopin, je voudrais jouer un petit jeu. J'espère que vous accepterez d'y jouer. Je vais vous donner des noms de pianistes, évidemment, qui ont enregistré Chopin, mais sans avoir de commentaires très longs, juste comme ça, un mot, une phrase, sans trop réfléchir, qui vous viennent comme ça à l'esprit. Alors, bah, Samson François. Vous avez le droit d'être joker, hein, si vous voulez.
Non, bah, moi, je suis ami des pianistes, surtout les pianistes du passé, d'ailleurs. Mais j'aime profondément les pianistes. J'aime écouter les pianistes, j'aime écouter... les pianistes amateurs, je vais au concert, non, j'y vais pas, j'y vais trop peu, mais de temps en temps, et j'aime écouter les pianistes, quels qu'ils soient, et, ils m'apprennent toujours quelque chose, évidemment. Et, donc, le Samson François, bah, c'est le génie par excellence, c'est-à-dire qu'il joue Chopin comme personne d'autre. C'est quand on écoute Samson François, c'est autant Samson François que Chopin, et ça j'aime beaucoup. C'est un Chopin fantastique, mais au sens allemand du terme.
Rao.
Alors là, c'est le son plein, profond. C'est un puits sans fond, le son d'Arao.
Horowitz.
<C'est>... vous avez raison, hein, c'est difficile de parler en deux mots de pianiste, parce que Horowitz...
Des idées, peut-être ça peut même être un souvenir éventuellement.
Oui, Horowitz, c'est plutôt la lumière, il y a un côté plus lyrique chez Horowitz, c'est le spectacle, c'est la scène, c'était vraiment un homme de scène.
Rubinstein.
Rubinstein, je crois qu'il y a un malentendu avec Rubinstein. On parle souvent de manière assez anecdotique, parce que tu es un être drôle qui a écrit des choses amusantes et qui avait une attitude qui pouvait prêter à beaucoup de commentaires. Et paradoxalement, son piano est assez sérieux. Et je trouve que son Chopin est posé, parfois peut-être un peu trop cadré, à mon sens.
Pollini.
Apollini, c'est magnifique, surtout ses derniers enregistrements, ses nocturnes. Ça, c'est vraiment un très grand chopinien.
Zimmermann.
Zimmermann aussi, évidemment, plus jeune, plus... J'ai beaucoup écouté les premiers enregistrements de Zimmermann, les premiers Chopins de Zimmermann. Ils m'ont beaucoup nourri à l'adolescence.
Cortot.
Alors là, c'est une autre dimension, parce que c'est le lyrisme... exacerbé, avec beaucoup de basses. Ce que j'aimais dans le Chopin de Cortot, c'était les basses, l'harmonie, et au-dessus de ces basses extrêmement solides, parfois lourdes, pesantes, il y avait cette ligne mélodique. Je vous parlais d'improvisation tout à l'heure, mais c'est vraiment ça. On a l'impression que c'est une chanteuse qui déploie ses ailes sur une base extrêmement solide.
Argerich.
La folie, le feu... grand Chopin aussi, j'ai beaucoup écouté ses ballades, ses préludes, ses préludes, les concertos aussi.
Lipati.
J'espère que votre liste n'est pas trop longue. C'est le dernier.
C'est le dernier, justement.
C'est peut-être celui que je préfère dans Chopin, parce que c'est un Chopin... voilà, quand on écoute Lipati, on a l'impression que Chopin est vivant, qu'il a écrit sa partition le matin même, et que Lipati a ouvert la partition sur le manuscrit, a déchiffré pendant 5 minutes, et puis a joué de manière magique. Vraiment, Lipati joue, je dis joue au présent, parce que pour moi, tous ces pianistes du passé sont très présents. Il joue Chopin de manière très simple, très simple. Mais alors, d'un naturel effrayant, comme personne. On a vraiment l'impression qu'il vient d'ouvrir la partition.
Est-ce que dans les pianistes qui vous touchent profondément, est-ce qu'il y en a certains pour qui vous avez une sorte d'incompréhension par rapport à leur approche de Chopin? Ou qui vous touchent moins?
Qui me touchent moins, oui. Mais encore une fois, les pianistes m'apprennent des choses... comment dire? Un pianiste qui ne me touche pas dans Chopin, je me dis toujours que c'est parce que j'ai pas tout compris. Et plus tard, j'aurai peut-être un déclic. Je me dis toujours attention, c'est peut-être pas lui, c'est peut-être moi. Ça se fait à deux, hein, une interprétation. L'interprète et son auditeur. Et comme exemple, quand j'étais adolescent, je n'aimais pas Arao. Ça paraît fou, mais je trouvais qu'il jouait lourd, gras, sans... Enfin, j'étais complètement étranger à ce jeu. Et puis, vers 20 ans, je suis tombé dedans, dans la marmite, et là, j'y suis resté. C'est un compositeur.
Ouais, le
Lapsus,
lapsus intéressant.
merveilleux Lapsus. C'est un pianiste, un interprète et créateur, hein, qui est absolument fabuleux. Faites une expérience, écoutez un disque d'Arao 50 fois d'affilée, et bien vous ne vous ennuierez jamais. La première écoute vous paraît magnifique, mais plus vous rentrez dans le disque, plus vous l'écoutez, et plus vous avez l'impression d'enlever des couches comme ça et d'aller plus loin dans son jeu à lui et dans l'œuvre. Et ça, c'est pas le cas de beaucoup de pianistes.
La dernière fois, vous aviez dit une chose assez amusante. Vous aviez hâte d'être un vieux pianiste, parce que vous trouviez dans le son des vieux pianistes une sorte d'ampleur qui vous touchait
Bien sûr.
profondément. Est-ce que vous imaginez un peu quel Chopin vous jouerez quand vous serez un vieux pianiste? Vous imaginez déjà la façon dont il a évolué en vous depuis le conservatoire?
Bah, il évoluera en moi aussi avec tout ce qu'il y aura autour, c'est-à-dire ce qu'apporteront d'ici là les autres pianistes que j'écouterai, le monde comme il va bouger. Comme notre perception de la musique aura changé dans 30 ans, alors j'imagine que le disque n'existera plus, en tout cas sous cette forme. Et je jouerai certainement un Chopin un peu désarticulé, avec des doigts moins véloces, hein, mais un son certainement plus profond, hein, avec plus de couleurs, plus d'inexactitude, plus de... Je pense à des cloîtres, j'aime beaucoup les cloîtres romans et les cloîtres très anciens dont chaque
Arche.
arche, chaque arcade, chaque alcôve a aucune n'est semblable. Et j'aime cette irrégularité. Elle me remplit d'émotions et c'est ce que j'aime chez les vieux pianistes. C'est quand il y a. Mais Paulini commence à être comme ça. Écoutez son dernier disque, Bach, que j'aime beaucoup, même s'il a été critiqué. C'est un Bach qui est assez charpenté, assez classique, assez. Pas froid du tout, mais mesuré. Mais on sent les doigts qui ont pris de l'âge. C'est comme un vin ancien. Ça a pris de la consistance et il y a quelques irrégularités. Parfois un doigt qui chevauche un tout petit peu. Mais c'est presque rien. Mais ça change tout. Et j'ai hâte d'être un vieux pianiste pour ça, si vous voulez. Je sais qu'à 80 ans, 85 ans, si je peux encore jouer, si je vis encore, j'aurai cette manière de jouer-là, faite de petites choses, de petites poussières qui viennent entraver un jeu plus parfait.
Thank you.
des projets sur scène, à part peut-être promener cet album Chopin ou d'autres choses dans les mois à venir?
Oui, en effet, jouer Chopin beaucoup. Il y a un anniversaire, et puis cet album, c'est en quelque sorte le service après-vente. Hein, mais en même temps, d'autres projets.
C'est pour quelqu'un dont la principale maison, c'est la scène, comme vous dites.
Pardon ?
Vous dites la scène, c'est ma principale maison, souvent.
Oui, j'ai cette impression-là d'être plus chez moi sur scène que dans mon appartement. Mais les projets, c'est des tournées, des voyages. Là, dans une semaine, je pars au Japon, et c'est un pays que j'adore. Donc, je suis tout excité d'y retourner chaque année. Ensuite, j'ai un mois sabbatique, comme tous les mois de décembre. Et puis des programmes nouveaux, des commandes aussi que je fais à des compositeurs, comme le concerto que Gérard Pesson est en train de m'écrire. J'ai un projet, alors un tout autre style, mais avec Michel Legrand, un compositeur qui m'a enchanté quand j'étais enfant, et on s'est rencontrés plusieurs fois, et puis il va m'écrire un concerto. Ça, c'est à plus long terme, mais c'est assez...
Une pièce sans image, sans support visuel,
enfin, je pense qu'à ce moment de sa vie, c'est important. C'est pour ça que je suis allé vers lui. Je pense que c'est important qu'il écrive pour des interprètes classiques et aussi qu'il écrive des formes plus classiques.
C'est important pour vous de pouvoir discuter avec le compositeur quand c'est possible, là par exemple.
C'est quelque chose d'inouï. La commande d'une heure, comment on s'y prend, ça vient d'une rencontre, d'une idée, d'un désir commun, et puis ensuite ça met du temps parce qu'il faut. Surtout quand c'est un concerto, il faut trouver l'orchestre, là, ça va être une tournée, peut-être un disque, enfin, c'est assez énorme. Et puis il faut que le compositeur, en l'occurrence Michel Legrand, qu'il ait le temps d'écrire. Donc ça peut prendre 3 ans, 4 ans, c'est très long. Et puis il y a le moment de l'accouchement de l'œuvre en public, qui est un moment d'une... Il y a une pression énorme sur mes épaules, et puis je dirais sur les épaules de l'orchestre, du compositeur, de tout le monde. Le public aussi est en haleine, et le public sait que là il y a un moment unique à vivre, et ça n'a rien à voir avec tous les autres concerts. Le moment d'une création, c'est un moment très fort.
C'est essentiel pour vous, justement, ces projets avec d'autres, que ce soit des compositeurs contemporains, des chanteurs de chansons, comme vous le faites parfois, quand on sort d'expériences assez intimes et vraiment intenses, presque violences personnelles, comme un album de piano de Chopin, uniquement qu'en plus on intitule Journal intime. On n'est pas complètement seul avec soi-même, puisque vous avez évoqué une nouvelle équipe, une maison de disques, un enregistrement, on n'est pas tout seul dans le studio, il y a des discussions, mais on a quand même une sorte d'intériorité de travail sur soi qui... Donc, est-ce que c'est important, justement, pour vous, ces travaux avec des tiers, d'autres personnes, des échanges même?
Oui, d'autant que je fais pratiquement plus de musique de chambre aujourd'hui. Mmh. Je joue avec Jean-Guyenne Kéras, c'est encore quelqu'un de fidèle et avec qui j'ai envie de jouer longtemps. Mais avec d'autres, presque plus. Donc, il me faut quand même... de temps en temps avoir une pratique de la scène ou avec d'autres. Et c'est peut-être pour ça que régulièrement j'ai des expériences avec des musiciens ou des artistes qui viennent d'un monde différent du mien.
Dans les anniversaires, évidemment c'est que un chiffre. L'année prochaine, je crois que ce serait le 80e anniversaire de Barbara. Pareil, on vous a évoqué la manière dont Chopin vivait avec vous. Comment, par exemple, quelqu'un donc, dans un univers complètement différent, de musique également, c'est une chanteuse, mais aussi une musique liée à Barbara. Comment ça vit également, ça, avec vous? C'est toujours en vous, ça s'en va, ça revient?
Mais comme tous les grands fans de Barbara, c'est une... Comment dire? C'est par vague, c'est par poussée de barbarisme. J'ai des semaines où j'écoute Barbara tout le temps en boucle, ça devient insupportable, et puis tout d'un coup j'arrête tout, puis ça revient. Mais c'est drôle que ce soit cet anniversaire, hein, 80 ans, qu'est-ce qu'elle... On a du mal à imaginer, tant sa mort paraît encore très proche, et comme elle était encore jeune sur scène, qu'est-ce qu'elle était capable de faire. Je me rappelle quand à cette dernière tournée, elle disait j'ai 67 ans. Elle voulait absolument dire ce chiffre-là. Mais c'était hallucinant de se dire mais c'est pas possible, elle n'a pas 67 ans. Évidemment, elle est âgée, on voit qu'elle se. Mais elle déployait une telle énergie sur scène, malgré sa voix cassée, malgré ses doigts pleins de rhumatisme qui ne jouaient plus très bien, malgré plein de choses, son dos voûté. Mais elle n'avait pas d'âge sur scène. Et je me pose la question, qu'est-ce qu'elle aurait fait aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elle aurait fait depuis donc tout ce temps? Elle aurait, depuis donc 12 ans, elle aurait certainement terminé ses mémoires, qui sont sorties, mais bon, ça s'arrête très, très tôt dans sa vie. Donc elle nous aurait parlé de manière très intime de toute sa vie adulte et de, jusqu'à aujourd'hui. Puis elle aurait certainement fait autre chose. Elle aurait gardé, même si elle avait abandonné la scène, elle aurait gardé un contact ténu avec le public, un contact peut-être plus souterrain, mais peut-être plus intime. En lisant ses mémoires interrompues, donc c'est les premiers chapitres de ses mémoires, je trouve qu'elle écrit comme ses chansons, en fait. Le lien était le même. Elle écrivait avec la même poésie que ses chansons. Donc je crois qu'elle aurait fait d'autres choses, créé d'autres choses, une autre manière de s'adresser à son public qui aurait été certainement tout autant fidèle aujourd'hui, mais avec d'autres supports. Elle aurait créé autre chose.
Ah, pour terminer, donc pour revenir à vos piles de disques, quand vous arrivez aux caisses des magasins, je ne sais pas, sur Internet, qu'est-ce qu'il y a dans les dernières piles de disques que vous avez achetées?
Alors...
qui vous ont plu, déçu?
Il y a un disque que j'aime beaucoup, c'est Les Suites de Haendel par Racha Arodaki, qui est cette jeune pianiste que je connais par ailleurs. On avait même participé à un concours quand on avait, je sais pas, moi j'avais 11 ans, elle devait être un peu plus jeune, mais ça s'appelait le Royaume de la musique. Et on s'est retrouvés très brièvement au conservatoire, et puis après plus de nouvelles, et on s'est revus il n'y a pas longtemps. Elle a fait un disque que je trouve vraiment merveilleux, avec une patte sonore comme on entend rarement aujourd'hui. Et vous savez que moi, je suis très attiré par la musique baroque jouée au piano, mais j'avais toujours refusé de jouer à Haendel parce que je trouve que c'est un compositeur qui est vraiment, alors là, pour le coup, qui sort merveilleusement bien au clavecin, mais qui paraît lourd, pâteux au piano. Alors elle en fait quelque chose de merveilleux. Du coup, j'ai envie de m'approprier cette musique.
On en revient à ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que de toute façon, dès que vous écoutez un pianiste, ça a de toute façon un impact sur vous, quel qu'il soit.
Ouais, mais là, vraiment, ça a eu un impact fort. Et elle a créé son propre label pour faire ce qu'elle voulait. Donc je trouve que c'est un geste fort et osé, avec une très belle pochette, une belle couverture. Un très beau texte, elle a choisi le son qu'elle voulait, sans être tributaire de quiconque. Et elle a été élève de Peraya pendant une dizaine d'années, en se coupant du chemin habituel, du parcours classique des pianistes, donc en tenant très peu de concerts. Finalement, on peut dire qu'elle débute sa carrière aujourd'hui. Et ce disque, vraiment, je le conseille. C'est un très très beau disque, très profond, avec un jeu qui ressemble, même s'il n'a rien à voir, qui ressemble à celui de Peraya, à Dradulupu. Vous voyez ce son-là.
D'autres choses dans cette pile de disques?
Le dernier disque de Dominique A. Bon, là, je passe... un peu du coq à l'âne.
Ouais, les piles de disques,
mais chez moi, j'ai beaucoup de disques de chansons. Hein. Je reste attaché à la chanson. Et alors, Dominique a fait un nouveau disque qui s'appelle La musique. Absolument magnifique. Il a sorti, alors là, c'est tout récent, donc je ne peux pas vous en parler en détail, mais un disque qui s'appelle Carte blanche à Dominique A, qui est très intéressant, où il ne chante pas du tout, mais il propose une quinzaine d'extraits d'albums qui sont importants pour lui. Il aurait pu appeler cet album Journal Intime, lui aussi. Et je suis très content d'avoir acheté ce disque, parce que ce ne sont que des chanteurs que je ne connais pas, que je n'ai pas eu l'occasion d'écouter jusqu'à présent, donc je vais apprendre beaucoup. Je l'ai écouté juste une fois l'autre jour, donc là je ne peux pas vraiment vous en parler, mais je trouve que l'idée d'avoir fait ce disque est très intéressante, pour moi en tout cas.
Merci Alexandre Tarot.
Merci.
Rencontre par Marc Zisman.